OK, alors on est dans le cours « La mort dans la cité ». Le monde contemporain est-il en chute libre, qui est une espèce d'introduction à la pensée de Francis Schaeffer. On est en train de terminer, un bouquin qui est « La mort dans la cité ». Et puis, ça se peut que je commence la semaine prochaine, mais vous savez, j'ai tendance à m'étirer. Donc, dans deux semaines, en principe, on va passer à une autre petite plaquette qui est toujours de Francis Schaeffer, une introduction à la philosophie chrétienne. Ça va devenir un petit peu plus conceptuel, d'accord, pour ceux qui sont moins à l'aise là, mais en même temps, ça devrait être pas mal intéressant. C'est quand même une des grandes forces de Schaeffer d'avoir su être un vulgarisateur. C'était quelqu'un qui prenait des concepts, des idées, des raisonnements, des fois dans la défense de la foi, dans l'apologétique, parfois complexe, puis qui les vulgarisait. Fait que, comme je mentionnais tout à l'heure dans la prière, des fois, ça se peut que vous terminiez ça, puis vous dites « OK, j'ai suivi tout le long ». Puis là, je pars de cette conversation-là, puis je m'en rappelle plus assez pour m'en servir. D'accord? C'est normal. C'est 100% normal. Quand j'écoute Tim Keller prêcher, ça m'arrive une fois sur deux. D'accord? Fait que c'est normal, mais il n'y a pas de remède à ça autre que d'aller relire les arguments pour pouvoir être capable, après ça, juste de tenir l'essentiel des arguments, tenir le fil, dans le fond, de l'argumentation. Il y a des gens pour qui c'est super facile, d'autres pour qui c'est plus difficile. D'accord? Mais si j'ai pris Schaeffer, c'était pas pour vous montrer qu'il y a des chrétiens brillants. C'était pour qu'on puisse s'approprier un certain nombre de trucs dedans. Je pense que c'est accessible quand même. Donc, on revient sur la leçon 8. La justice de Dieu. On était parti dans une longue conversation la dernière fois. Donc, on avait fait à peu près la moitié de la leçon, si vous vous rappelez bien. Alors, on va juste réviser. Ça, c'est ce qu'on va entendre une bonne partie, d'accord? Je suis désolé, là. On est vraiment en train de leur donner une chance d'être à l'aise tout à l'heure pour la célébration. Donc, si vous voulez que je parle plus fort, ouais, c'est ça? OK, parfait. Je vais parler plus fort. Donc, toute la question, je vais juste réviser rapidement le début de la leçon, puis après ça, on va un petit peu plus dans les implications. Une des grandes difficultés lorsqu'on veut parler de la foi, lorsqu'on veut parler du christianisme avec des gens, c'est que les gens portent un jugement moral sur la personne de Dieu. D'accord? Ils considèrent Dieu intuitivement, ils ont tendance à considérer Dieu comme s'il était injuste, comme s'il avait été injuste dans ses jugements, comme s'il était injustifié de porter jugement sur l'homme. À cause de notre faiblesse, à cause qu'on est limité, parce que c'est lui le patron, puis si tout va mal, dans le fond, c'est de sa faute à lui, c'est pas de notre faute à nous. Il y avait juste à pas faire les choses comme ça, puis tout aurait bien été, d'accord? Et donc, il faut être prêt à répondre à ça. Il faut être prêt à raisonner avec les gens. C'est pas... comment je vous dirais ça? Oui, je peux prendre un regard hautain sur les gens, puis dire, ben Paul dit dans Romains 1 que les gens sont insensés. Ils ont perdu la raison. Puis, juste dire, c'est stupide comme raisonnement. Mais en même temps, lorsque tu n'as pas reçu la révélation de Dieu, on est tous à la même place. Donc, dans mon esprit à moi, c'est des très, très bonnes questions qu'ils posent. Puis quand je vois des chrétiens qui ne sont pas confortables à aller répondre à ces questions-là, puis qui vont plutôt mépriser, il y a une autre chaise juste ici, Mme Sylvestre. Oui, celle-là ici est très propre, celle derrière. Donc, quand je vois des chrétiens un peu mépriser ces questions-là, moi, personnellement, ça, je trouve pas ça sage. Parce que ce sont des très, très bonnes questions que les gens posent, d'accord? Alors, dans le fond, la question, c'est sur quelle base Dieu va-t-il juger les hommes? Ou l'homme sans la Bible, celui qui n'a pas reçu la révélation? Est-ce que Dieu est légitimé? Est-ce qu'il est en droit vraiment de juger les hommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle l'argument de base, dans le fond, que M. Schaeffer nous propose? Ou c'est trop loin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler? Oui, François. OK. OK. OK, donc je vais le répéter simplement là, au cas où on serait en train d'enregistrer ce matin. Donc, ce que François nous dit, c'est exactement ça, c'est que M. Schaeffer dit, dans le fond, tous les êtres humains se prononcent en juge. On pose des jugements éthique sur les comportements des gens qui nous entourent constamment. Si vous êtes marié, vous le faites tout le temps. Si vous avez des enfants, vous le faites tout le temps. Vous comprenez? Fille pas correct, c'est pas correct, c'est injuste, on manque de respect. J'étais en train de réviser, puis là, ce qui m'est venu à l'esprit hier à un moment donné, c'est j'ai une pensée, j'ai dit tableau qui est ingrate. Je vous dirai pas de qui jugeait, mais c'était pas ma femme. ça aurait pu. C'est pas encore celle d'un autre non plus. fait que j'ai eu cette pensée-là qui m'est venue. Donc, j'ai posé un jugement. Et ce que Francis Schaeffer dit tout simplement, c'est que, OK, et si Dieu ne prenait que ce fondement-là, que celui-là, le code moral avec lequel vous avez jugé des gens pendant toute votre vie, vous arrivez devant lui puis il dit, je vais juste repartir la cassette de tous tes jugements puis on va t'évaluer maintenant à la lumière de tous ces jugements-là. D'accord? Et on va voir ce que ça donne. On va voir à quel point tu es performant. Essayez de rester avec moi. J'ai pas pensé à vous mettre comme ça. Donc, stick with me. Puis, les Écritures disent que Dieu va faire ça. D'accord? On a quelques passages dans les Écritures où clairement c'est mentionné que c'est à la mesure du jugement qu'on a usé envers les autres qu'on va être jugé nous-mêmes. Dans Matthieu 12, 36, 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et donc, dans une certaine mesure, c'est ça qui va se passer. Ailleurs, il dit justement qu'on va être mesuré de la mesure qu'on a utilisée envers les autres. D'accord? Et donc, tout ce que M. Schaeffer dit, c'est que si Dieu ne se sert que de ça, on est tous condamnés. D'accord? On pourrait sortir de ça un autre argument. D'accord? Qui serait celui de dire de toute façon, tout simplement, est-ce que vous ne croyez pas, ça vous m'avez entendu le dire souvent en chair, est-ce que vous ne croyez pas que nous, qui estimons que c'est important de juger régulièrement le bien et le mal que les gens font, dans l'éducation, tu ne peux pas éduquer tes enfants vraiment. Tu peux le faire, là. Il y en a qui le font, ça donne des drôles de choses. Mais tu ne peux pas vraiment éduquer tes enfants sans poser des jugements régulièrement. Parce que quand il frappe sa sœur, si tu poses un jugement, tu vas dire, c'est pas bien de faire ça. Si tu ne poses pas de jugement, tu vas dire, way to go, man, tu es plus fort que l'autre. Vous comprenez? Encore là, c'est une appréciation. Je devrais juste les laisser s'entretuer. Mais donc, je pourrais aussi aller dans ce sens-là puis juste dire, regardez, si quelqu'un était plus parfait que moi, ne jugerait-il pas? Si Dieu existe, n'est-il pas juge? D'accord? Mais là, la question qu'on est en train d'adresser, c'est pas la question de savoir est-ce que Dieu connaît ce qui est bien puis ce qui est mal. C'est sous-entendu ici que j'accepte ça. J'accepte qu'il y a un Dieu qui est saint, qui est parfait, mais j'ai une approche universaliste, c'est-à-dire Dieu va sauver tous les hommes parce que Dieu est très, très bon puis nous, on est des cabochons. Puis il ne peut pas nous en tenir rigueur, d'accord? Parce que ce serait injuste de sa part. Donc, ce n'est pas qu'il n'est pas juste dans son jugement, mais il serait injuste de nous condamner puisqu'on n'a pas suffisamment de connaissances pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. L'argument de M. Schaeffer, c'est non, non. Vous jugez de ce qui est bien et de ce qui est mal constamment. Et si Dieu ne prenait que vos standards à vous, il en aurait amplement suffisamment pour pouvoir vous condamner vous-même. Est-ce que vous êtes confortable avec cet argument-là? Je ne rentrerai pas dans le débat parce que la semaine dernière, on a pris un rabbit trail. Je suis très à l'aise avec ça, mais je veux m'assurer de compléter la leçon. Mais ça va, c'est quelque chose que vous pouvez aborder dans une conversation. Ça fait du sens pour vous suffisamment pour pouvoir l'articuler puis vous en servir dans une conversation. Et c'est une belle approche parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut reconnaître que lui-même pose des jugements et que lui-même, à la hauteur de ses propres jugements, serait condamné, après ça, je peux commencer à parler de Dieu, d'accord? Parler d'un Dieu qui est infiniment plus juste que nous, qui est pas qui n'a pas ces doubles jugements-là, ces doubles motifs-là constamment, mais d'un Dieu qui, lui, est juste. Oui, David? Oui.
C'est sûr que nous, on comprend, parce qu'on est chrétien, la justice de Dieu, Mais il n'y aura pas le choix, parce que il va voir que lui, il a des... Il sait faire un standard de moralité qui est au-dessus, qui est à l'extérieur.
Ouais.
Mais ça, c'est pour vrai que la personne dise, « Ouais, mais je suis bien à l'aise avec, par exemple, abuser des enfants
ouais.
sexuellement. »
Ouais.
Ça pourrait,
ouais.
ça pourrait arriver à un moment donné.
Ouais.
Et donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est comme absurde, mais dans sa façon de réfléchir, ben, pourquoi je devrais
ouais.
Me plier devant accepter cette moralité-là que toi, tu me proposes pour exister d'autres
moralités. Oui. Ben là, après ça, c'est votre style. C'est votre style qui va déterminer ce que vous faites. D'accord? Fait que je l'ai vécu une fois avec quelqu'un qui était vraiment arrogant. Là. J'étais au cégep, tout ça, puis... Je suis en train de discuter avec des jeunes, puis il était peut-être une quinzaine de jeunes, puis j'avais une petite tête forte comme ça, qui était en train d'aller comme d'assumer son raisonnement jusqu'à l'extrême. Mais moi, j'aurais pas de problème dans ce cas-là à m'approcher d'un jeune baveux comme ça, puis dire, regarde, moi, je fais du karaté. Fait que si ça te tente, on va s'amuser, même prendre ses clés de char, puis dire, je te remercie pour la journée. Je m'en vais, ça se peut, je te la remette pas aussi. Puis partir. On se reparle la prochaine fois qu'on se croit. J'aurais pas de problème à le faire personnellement. Mais fait que ça dépend de votre style. Mais ce que je veux faire comme point avec ça, c'est que qu'il faut aider la personne à voir qu'elle n'est pas prête à vivre avec ça. D'accord? Quelqu'un qui va me dire ça, ça se peut que je lui dise, t'as pas d'enfant, toi. T'as pas d'enfant. Et je vais prier pour que Dieu fasse grâce à tes enfants malgré ta stupidité. Parce que si Dieu assume vraiment ce que tu dis, ça se peut que tu te fasses enlever tes enfants et qu'ils meurent. Pardon? Ça, c'est parler à l'insensé, selon sa folie. Fait que je peux le faire très gentiment. Je peux devenir un petit peu plus direct, vous comprenez? Ça dépend de votre style. On va quand même emprunter le même chemin, d'accord? Dans le sens que je peux aller vers l'Holocauste. Moi, j'ai écouté le témoignage d'une survivante de l'Holocauste qui a perdu toute sa famille. C'est vrai, là, au cégep, au Collège Champlain à l'époque. Mais je peux aller là et dire, regarde, écoute, va-t'en pas en psycho, va-t'en pas aider des gens, de grâce, fais pas ça, s'il te plaît. T'as jamais écouté une survivante de l'Holocauste raconter son histoire. Tu peux pas dire à ces gens-là que le mal n'existe pas, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le chemin qu'on va emprunter pour montrer la folie du raisonnement. D'accord? Parce que les gens, c'est comme on l'avait dit dans l'autre leçon précédente, là, précédemment à ça, c'est que en réalité, il y a à peu près personne qui vit cette philosophie-là pour de vrai. D'accord? C'est des discours intéressants lorsque tu es en train de prendre un café, là, puis tu es en train de philosopher dans un cours au cégep, puis tu t'en vas dans toutes les directions. Quand les jeunes rentrent dans l'école, puis ils commencent à tout démolir, on découvre ta moralité, par exemple. Si tu es d'accord ou non, puis où est-ce que tu t'en vas? Fait que... Mais c'est un bon point, David. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt à écouter, ne pas mépriser. La personne veut être conséquente, puis juste voir jusqu'où elle est prête à être conséquente. Et moi, ça ne me dérange pas de devenir plus personnel si c'est nécessaire. Comme je vous dis, ça ne me dérange pas d'aller là. Puis d'aller dans le personnel et dire, OK, je te remercie, je me cherche un char. Je prends ses clés. Il va vouloir me les enlever des mains. Tu veux-tu qu'on devienne physique? Parce qu'il n'y a pas de problème. Là. Toutes les deux, on est en train de faire le bien. C'est juste le plus fort qui va l'emporter. Ça va? Vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. Monsieur Prévost, je suis sûr qu'il serait d'accord dans le temps. Hein? Vous auriez fait ça avec des tannants. Hein? Votre Monsieur Prévost travaillait pour la police à l'époque. OK. Présentez Dieu à l'homme sans la Bible. Alors, dans le fond, ce que M. Schaeffer dit, puis là, on arrive à peu près là où on était rendu l'autre semaine avant. Dans le fond, ce que M. Schaeffer dit, c'est que à l'homme qui est sans la Bible, c'est vraiment difficile d'arriver à présenter, à défendre le christianisme si j'en viens pas à présenter le jugement divin. L'idée que Dieu va juger toute chose un jour, je peux pas vraiment me rendre à l'Évangile si je fais pas ça. Donc, c'est quand même un sujet qui est super important. Puis en même temps, ce que lui dit, c'est que j'arriverai pas à répondre aux grandes questions que l'homme moderne se pose si je m'en vais pas là. Et peut-être là, juste pour vous rappeler quelques grandes questions que l'homme moderne se pose, c'est quoi l'être humain? Est-ce qu'on est vraiment juste des molécules qui ont pas de sens définitif. Notre vie a pas de sens définitif. On naît, on meurt sans sens réel. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis pur animal, seulement animal, pur accident? Ou est-ce que ma vie est plus que ça? L'histoire, est-ce que l'histoire de l'humanité a une signification? Ou si c'est... On peut raconter l'histoire, mais elle n'a pas de sens réel, elle n'a pas d'impact de bien, de mal qu'on construit. C'est juste une vie animale qui naît, qui meurt, qu'on oublie, puis ça finit là. Et donc, ça pose la question, est-ce que moi j'ai de la signification? Est-ce que ma vie porte un sens? Ou le seul sens que ma vie, c'est le plaisir que j'en tire, puis ça finit là? D'accord? Mais plusieurs vivent à la lumière de cette philosophie-là. Le seul sens que ma vie, c'est le plaisir que j'en tire. Mais ça donne des gens, généralement, qui, quand la vie est moins le fun, vivent avec une certaine amertume qui traîne tout le temps. C'est toujours là. C'est là en arrière-plan. Je vous ai, si j'allais plus personnellement, je pourrais vous nommer des gens dans mon entourage. C'est là. Il y a comme une grande amertume face à la vie où j'arrive pas à... S'ils croient vraiment que leur vie porte aucun sens. Parce que, je veux dire, une fois que le plaisir est plus là, il n'y en a plus. D'accord? Puis comme je le mentionnais, le hic avec ça, c'est que la société est construite sur le contraire de ça. On n'arrivera pas à construire une société, des rapports sociaux sains, même selon les standards du monde, si notre vie ne fait aucun sens puis c'est seulement le plaisir. D'accord? Les êtres humains fantasment ça à travers bien des films, mais ils ne voudraient jamais vivre dans ce qu'ils voient à l'écran, en tout cas pas plus que 2 heures. D'accord? Vraiment. Maintenant, ce que M. Schaeffer dit, c'est OK, si je veux démontrer que Dieu ne posera pas de jugement, qu'il n'y a pas de jugement divin, il y a 2 choses que je pourrais faire pour arriver à ça. Il faudrait que je défende le fait que Dieu n'est pas saint. Si Dieu n'est pas un être saint, un être parfait, il n'y a aucune raison de poser un jugement sur l'humanité. D'accord? Donc, comprenez, quand je dis ça, je suis en train de m'approcher quand même de beaucoup de la vision que nos contemporains ont de Dieu. Beaucoup de nos contemporains, soit que Dieu est saint, parfait, mais définitivement pas personnel, c'est pas une personne, c'est plutôt comme, si c'est une personne, il est vraiment parti sur un gros voyage, mais il est pas là, il est pas en train de gérer la patente, c'est, excusez-moi le langage, mais c'est le bordel ici, il est pas là, ça c'est clair. Ou bien, non, c'est une personne. Mais il n'est pas juste, il n'est pas saint, ça c'est sûr. D'accord? Et beaucoup de gens vont le voir comme ça. OK, peut-être qu'il existe, mais j'ai des choses à y mettre en pleine face quand je vais le rencontrer. D'accord? Maintenant, encore une fois, si Dieu n'est pas saint, si Dieu n'est pas juste, la moralité ne tient pas la route. On n'a rien pour construire. Le bien et le mal est absolument relatif. Et s'il est absolument relatif, mais j'ai aucun jugement à poser ni sur le recteur de l'UQAM qui a fait venir les policiers, ni sur les jeunes qui ont brisé plein d'affaires à l'UQAM. C'est ni bien ni mal. C'est juste des êtres qui s'expriment puis qui vivent. Et donc, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Quand je frappe des nids de poules, je n'ai pas d'affaire à être irrité puis à dire, mais tableau, quelle sorte de système on a qui n'arrive pas à tenir des routes en ordre. Non, ça n'a pas rapport. Je veux dire, sois juste content qu'il y ait une route. De toute façon, c'est pas bien ni mal. Il n'y en aurait pas, ça ne serait pas plus mal, ça ne serait pas plus bien. Tu sais. Fait que on n'a pas de tissu, on n'a pas de filet pour construire quelque chose. Notre société est toujours en train de définir ce qui est bien et ce qui est mal. La différence, c'est que consciemment, de manière explicite, l'être humain dit « c'est nous qui allons déterminer ce qui est bien et ce qui est mal ». Mais l'être humain est constamment en train de dire « ça c'est bien, ça c'est mal, ça on arrête ça ». Tous les débats sociaux reposent tous sur cette question-là. D'accord? Et si le bien et le mal absolu n'existent pas parce que Dieu n'est pas vraiment saint, j'ai pas de fondement absolu. D'accord? Donc Hitler était 100% justifié et puis ceux qui ont battu Hitler étaient 100% justifiés. Il n'y a pas de problème là. D'accord? Est-ce que vous me suivez avec ça? Ça va bien? Oui. Oui, c'est pas que c'est immoral, c'est que c'est amoral. Probablement que si on cherchait sérieusement, on pourrait trouver 2-3 hippies anarchistes qui vivent selon ces valeurs-là. Mais, je veux dire, même les anarchistes qui vont manifester actuellement. Il y en a, là, ceux qui font de la casse, c'est des anarchistes. Ben, s'ils me disent qu'ils sont amoraux, je vois pas qu'est-ce qu'ils font là. Tu comprends? Je veux dire, va-t'en fumer ton joint dans un coin de la forêt puis laisse-nous tranquille. Pourquoi tu te fâches? T'as pas de raison de te fâcher si le bien puis le mal n'existent pas. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est une prétention qu'on doit vivre de manière amorale. J'ai jamais rencontré personne qui fait ça. Et deuxièmement, ben c'est ça. Ça serait d'en venir à dire que l'histoire de l'homme n'a aucun sens, que l'histoire de l'humanité n'a aucun sens. Et si cette histoire-là n'a aucun sens, bien, il n'y en aura pas de jugement. D'accord? Mais encore une fois, je veux dire, il faut qu'on trouve un sens. Je vous dirais, le plus simple que l'être humain va faire sans Dieu, c'est qu'il va dire, bon, ben, le sens, c'est la survie de l'espèce. Je suis en train de réfléchir à ça encore, puis je me dis, OK, ça, c'est le sens qu'ils vont trouver. D'accord? C'est la survie de l'espèce. Mais encore là, sur quelle base tu justifies cette affaire-là? Comprenez? Fait que c'est drôle parce que je jasais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, puis il cherche Dieu, mais il n'arrive pas comme à trouver des assises, puis il tient à voir Dieu comme il est un peu dans toutes les religions du monde, puis tout ça. Puis à un moment donné, il a attrapé l'idée. Daniel Bélanger avait une chanson où il disait une fois que les hommes seront morts, de toute façon, la nature va continuer à vivre, puis ça sera juste un autre règne animal qui va régner, puis c'est tout, tu sais. OK, fait que je peux le voir comme ça, c'est la survie de l'espèce, puis si c'est une autre espèce, ce sera une autre espèce. Mais à ce moment-là, pourquoi on se sent coupable de polluer? Pourquoi on se sent coupable d'être en train de détruire la Terre? Ça n'a pas rapport, cette affaire-là. Le soleil va s'éteindre un jour, puis la Terre va mourir un jour, puis amusons-nous, vous comprenez? Fait que même là, on cherche à donner un sens. Même là, on cherche à donner un sens. Donc, dans ma discussion avec les gens, lorsque je veux leur présenter l'Évangile, si jamais dans la conversation, j'en viens à leur présenter un Évangile qui vient les sauver d'un jugement divin, l'Évangile auquel ils vont adhérer, c'est le même Dieu. J'ai pas bouleversé leur vision de Dieu, d'accord? J'ai bonifié leur vision de Dieu, dans leur vision à eux. OK, Dieu n'était pas présent dans ma vie, mais là, tu me dis qu'il existe puis il est tout puissant. Puis on n'a pas placé l'idée qu'il va y avoir un jugement, là, d'accord? T'es pas sauvé de la colère de Dieu, c'est Dieu qui t'aime. Je parlais avec un jeune homme il y a quelques mois, puis il avait vraiment l'impression qu'il avait bien cerné le message de l'Évangile. Quand je lui disais, OK, qu'est-ce que Jésus a fait? Puis lui, ce qu'il avait saisi de la croix, c'est que Jésus avait montré l'exemple ultime d'amour en mourant sur la croix. Ça semble être pas mal ça, non? Fait que jusque-là, ça se tenait, mais là, je lui ai posé la question. Oui, il a montré le modèle ultime d'amour, mais est-ce que c'est juste un modèle à imiter ou si c'est pour nous sauver d'une absolue incapacité de l'imiter? Oh là, OK, là, on est allé ailleurs. Est-ce qu'il est en train de nous sauver du jugement de Dieu? Là, on est allé ailleurs. Là, ça ne marchait plus du tout. Là. Ça ne fonctionnait pas. Vous comprenez? Si je ne me rends pas là, ça se peut que les gens disent « Wow, Jésus est incroyable. Jésus aimait. Jésus pardonnait tout le temps. Jésus était toujours là. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est l'attitude qu'il faut qu'on ait, tout ça. » Fait que donc, Dieu est amour, puis Dieu est tout-puissant. Mais je vais terminer cet exercice-là avec un Dieu qui est à mon service. C'est ça qui va se passer. Ou peut-être un Dieu que je vais idéaliser puis que je vais vouloir imiter sans comprendre que ce Dieu-là va me juger. D'accord? Fait que on a des gens qui font profession de foi de croire en Jésus-Christ qui n'ont pas compris l'Évangile. Puis ils peuvent dire, moi aujourd'hui, ça pourrait nous arriver là, Dieu merci, on prend le temps de discuter avec les gens pour savoir qu'ils sont sauvés d'un jugement divin. Mais je veux dire, dans un témoignage, des fois vous allez écouter, vous allez dire, OK, là, personne, elle croit en Jésus, elle croit que Jésus est mort pour elle, puis elle veut le suivre. Mort pour elle, dans quel sens? Pour que tu deviennes meilleur, que tu apprennes à l'imiter, que tu deviennes moralement meilleur, ou parce que tu étais damné? Comprenez? Faut que je me rende là. Autrement, ils n'auront pas vraiment l'Évangile. Puis Vous allez le découvrir plus tard, lorsque vous allez faire de la formation de disciples avec eux. Ça va sortir à un moment donné, ça. Il y a des gens qui quittent l'Église. C'est impossible de tous les éviter. Jésus nous l'a dit. D'accord? C'est pas une question. Il y en a qui vont quitter l'Église parce qu'ils n'ont pas vraiment, ils sont pas vraiment nés de nouveau. Ils n'ont pas vraiment reçu ce message-là. Mais ils vont quitter l'Église 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Parce que là, ils comprennent ce message-là et ils disent, mais moi, c'est pas ce Jésus-là en qui je crois. C'est un autre Jésus. Le Jésus en qui je crois, il va pas donner des gens pour l'éternité. Comprenez? Question sur ça? Il est trop bon pour faire ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. J'ai un bon ami avec qui j'étais en contact encore dernièrement. C'est exactement ça qu'il me disait. Il dit, moi, Jésus, Yannick, je trippe. Il est super. Mais Dieu de l'Ancien Testament, je suis pas capable. C'est mal comprendre le Dieu de l'Ancien Testament, puis c'est mal comprendre Jésus, parce qu'il n'y a personne qui a parlé plus de jugement que Jésus. Je veux dire, à peu près tous les jugements prononcés dans l'Ancien Testament sont temporels. C'est comme, tu meurs. Jésus dit, non, tu meurs pas pour de vrai. Ça continue, la damnation, tu sais. Fait que, c'est ça. La dernière conversation soutenue, théologique qu'on a eue ensemble, c'était sur ça. J'ai dit, je comprends très bien ce que tu dis, mais c'est parce que tu restes sur ce que Dieu fait comme jugement sur la terre. Mais j'ai dit, en fait, t'as vraiment pas compris Jésus. T'as vraiment pas compris Jésus-Christ. Je l'ai aligné vers des lectures dans ce sens-là, mais il dit, je pense que je n'aimerais pas ton Jésus. Oui?
Je vois pas beaucoup d'amour quand Jésus reprend les pharisiens. Tu regardes ce qu'il dit. Tu vois beaucoup d'amour envers d'autres
groupes de personnes. Oui, c'est ça. Il prononce un jugement. Il prononce un jugement. En même temps, Pardon? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est à notre époque qu'on ne voit pas de l'amour là-dedans. C'est à notre époque qu'on ne voit pas de l'amour là-dedans. Je veux dire, si mon garçon, Bastien, est un junkie qui avait décidé qu'il allait fumer sa dernière, qu'il allait consommer sa dernière shot de crack, puis que c'était fini, puis c'est pour ça que je devienne un petit peu violent avec lui. Parce que je veux le garder en vie, puis je veux l'amener, le garder jusqu'au jour où il va avoir un peu de sens. T'sais, je ne vais pas dire, regarde, en passant, je t'ai acheté de la corde. Fait que c'est plus simple. Mais je veux dire... Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est vrai ce que tu dis. Moi, je vous dirais, puis une bonne référence de Danny, c'est un petit peu à ça que je pensais aussi, c'est que nous, on se dit on est chrétiens, fait qu'on a tout compris ça. Si vous n'êtes pas confortable avec la discipline ecclésiastique, là, vous n'avez pas compris ça. Alors, parce que la discipline ecclésiastique, quand on en vient à dire à quelqu'un, regarde, je ne peux pas juger ton cœur, mais tes comportements, c'est les comportements d'un non-chrétien. Je ne peux pas te voir comme un chrétien. Je suis en train de prononcer un jugement sur la personne. Puis, c'est arrivé que des gens me disaient, je sais à travers ça que tu m'aimes, Yannick. Mais c'est arrivé aussi que les gens me disaient, t'es vraiment juste un sans-cœur qui n'a pas d'allure, puis t'es un propre juste, toi, Étier. Comprenez? C'est ça. Mais pour de vrai, c'est de l'amour que je suis en train de manifester. C'est ça que je suis en train de faire, avant qu'il se trouve devant Dieu. Oui. Oui, puis c'est avant qu'il se trouve devant lui, là où ils n'auront plus le droit de dire « je me repens ». Parce qu'un jour vient où tu ne peux plus dire « je me repens ». Fait que notre rôle à nous dans ce cas-là, c'est simplement de, avec amour, continuer à dire la vérité puis garder toujours une porte ouverte. C'est super important parce que l'Église est là dans la vie d'un individu, qu'il reste ou qu'il s'en aille, on est encore là. L'Église est là dans la vie d'un individu pour être une occasion de se repentir, de venir à la grâce, d'accepter la grâce avant de mourir, avant de se présenter devant Dieu. Donc, notre rôle demeure. Fait que t'attends, tu pries. C'est ça ton rôle. Maintenant, deux conclusions s'imposent avec ça, nous dit Monsieur Schaeffer, juste pour être certain que je complète la leçon cette fois-ci. Deux conclusions s'imposent avec ça, c'est que le message s'adresse à chacun individuellement. C'est une réponse individuelle que les gens doivent rendre. Et lorsque je vais discuter avec les gens, je dois absolument aller à cet endroit-là avec eux où individuellement ils sont responsables. D'accord? Je tourne à la page 4 dans les notes. Le message de Dieu s'adresse à chacun individuellement. C'est vraiment intéressant. Paul commence Romains en parlant comme des hommes, puis après ça, il passe vraiment très, très personnel. « Ô toi qui juges! » Et donc, ça devient quelque chose où je dois répondre personnellement. Et comme on l'a dit, je vais juste vous rappeler le raisonnement de Francis Schaeffer, Dieu a le fondement et la justification nécessaire pour nous juger individuellement, ne serait-ce qu'à la lumière de notre propre éthique et de notre propre manque d'intégrité avec ce que nous-mêmes on juge bien. Parce qu'on juge toujours les autres puis on n'est pas à la hauteur nous-mêmes. Donc, si vous allez au cinquième petit paragraphe là, de la page 4, ainsi Dieu demande à tout homme de vivre dans une intégrité devant ce qu'il connaît et sait. Le jugement de Dieu reposera sur notre intégrité à vivre ou non à 100% à la mesure de la morale que nous connaissons. Et l'homme sera reconnu absolument coupable face à ce jugement, qu'il connaisse la Bible ou non. D'accord? Donc faites attention comme chrétien d'embarquer dans l'idée de dire « Ouais, mais là, peut-être que Dieu va sauver ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. » Ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ils en ont assez pour être damnés, comme ceux qui ont entendu parler de Jésus en ont assez pour être damnés. Après ça, la grâce de Dieu, comment est-ce qu'elle est opérante pour que les gens entendent Christ? Je m'appuie sur la souveraineté puis la bonté de Dieu. Si quelqu'un cherche, Dieu va se manifester. Moi, dans mon cas, je suis calviniste. Si quelqu'un cherche, parce que Dieu l'a attiré. Il ne devrait pas en échapper beaucoup. Comprenez? Fait que je pense que Jésus aussi l'était. Là. C'est parce que je suis en train de citer Jésus, je m'excuse. Devant cette réalité, la nécessité du sacrifice de Jésus-Christ pour satisfaire la justice de Dieu s'impose si Dieu veut pourvoir un salut possible pour les hommes. Et c'est là que l'Évangile devient beau. C'est que sur la base de la morale de chacun, des jugements que chacun pose, chacun sera condamné. À plus forte raison, lorsqu'on se présentera devant un Dieu saint qui, lui, est totalement impartial, serons-nous condamnés et condamnables. Alors, qui va nous sauver? Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Et là, la beauté de l'Évangile peut apparaître. Avant ça, Jésus, c'est un beau modèle d'amour. C'est un beau modèle de sacrifice personnel. D'accord? Mais ce n'est pas l'expression même de la compassion de Dieu envers nous. C'est un modèle à imiter sur la base de nos propres forces, de nos propres capacités. C'est dans l'Évangile que nous trouvons la solution la plus satisfaisante sur le plan intellectuel et moral aux questions de l'absolu et de la signification de l'homme. Et donc, si vous terminez le cours, je peux juste être situé dans le temps? 20 minutes, c'est bon. Si vous terminez le cours, puis vous dites, c'est drôle, des fois quand j'engage des conversations avec des gens qui sont plus intellectuels, tout ça, j'ai l'impression que c'est léger ce que j'ai à présenter. C'est surtout une question de foi. Écoutez, lisez du Schaeffer, relisez du Schaeffer, allez lire Tim Keller, Reason for God, Raison pour Dieu. Allez prendre le temps de lire ces choses-là. C'est la vision du monde la plus cohérente qui existe. C'est la vision du monde qui vient de Dieu, mais intellectuellement est super défendable. C'est pas. Puis encore une fois, comme je le dis, c'est pas parce que je peux toute la défendre puis faire l'argument que les gens vont se convertir. Vous comprenez? Les gens vont se convertir si Dieu les attire à eux puis s'ils reconnaissent leur péché. Puis c'est pas par la force de mes arguments. Mais on ne devrait pas, comme chrétiens, être gêné de la qualité de cette vision du monde-là, cette manière-là d'interpréter l'histoire des hommes puis de comprendre comment la vie fait un sens. On n'a pas de raison d'être gêné de ça. Puis je n'ai pas besoin comme de dire, regarde, ça, ce n'est pas important. tu comprends pas, t'es pécheur, puis Jésus t'aime. J'ai pas besoin non plus comme d'avoir peur d'aller là, parce que dans le fond, je veux pas le dire, mais je vois pas vraiment comment je peux te défendre ça. Oui, Chantal. Oui. 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 Mm-hmm. Oui. 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 Peut-être qu'à la lumière de la leçon aujourd'hui, vous pouvez juste vous rappeler que de toute façon, ils vous jugent tout le temps, comme vous le faites avec eux. C'est ça. Oui. 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 David, brièvement, s'il te plaît. Si je prends, dans le fond, ce que Chantal a dit, okay, c'est qu'on a peur d'être jugé. Puis je prends ce que David vient de dire. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver d'être jugé. D'accord? Parce qu'à partir du moment où la personne vous juge, on peut commencer à parler de jugement, de justice. Intéressant, justement, que tu trouves ça épais, mon affaire. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a du bien, puis il y a du mal, puis toi, tu sais ce qui est bien, puis ce qui est mal. Vous comprenez? Je suis en train de retourner dans l'argument de base ici, là. Fait qu'à quelque part, c'est la meilleure chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un me trouve vraiment épais de croire ça, puis poser un jugement, parce qu'il est en train de dire, « Ah, OK, toi, tu es la référence. » Intéressant. Toi, tu es la référence. Donc, on peut juger. On peut juger ce qui est bien puis ce qui est mal. Intéressant. La religion, ça fait tellement de mal. Mal. Intéressant. Le bien et le mal existent. Sur quelle base est-ce que tu juges ça? Donc, tous les deux, on a quelque chose en commun en partant. On croit que le bien et le mal existent. Intéressant. Fait que, c'est ça, c'est d'écouter. La deuxième conclusion qui s'impose, c'est que celui qui sait, est responsable de dire à celui qui ne sait pas encore. D'accord? Donc, oui, Dieu va être tout à fait justifié, on peut en faire la démonstration même logique, de juger l'homme sans la Bible. Dieu va être totalement justifié. Mais en même temps, Dieu va être totalement justifié aussi de juger l'homme qui a la Bible et qui ne parle pas. Et donc, on doit le faire. Et c'est ce qui fait que Paul avait ce genre de langage-là lorsqu'il dit dans Romains, il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » C'est vrai, Paul avait un appel particulier sur sa vie, mais on a un appel particulier sur notre vie. L'appel qui est sur notre vie, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. D'accord? La particularité de l'appel de Paul, c'est que contrairement à la majorité des apôtres qui ont œuvré auprès des Juifs, lui avait reçu un appel explicite pour aller vers les non-Juifs. Il devait ouvrir une voie, d'accord? Mais on se doit nous-mêmes de le faire. Dans Romains 10, je vous rappelle des paroles que vous connaissez certainement bien. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je ne peux donc, moi, chrétien qui connais l'Évangile, que m'émerveiller, c'est Schaeffer qui dit ça, d'avoir une réponse pour l'homme moderne qui croit n'avoir aucune valeur. Puis les gens sont mal pris parce qu'ils n'ont pas de véritable fondement pour déterminer leur valeur. Ils se valorisent, tout à l'heure je vais le mentionner dans le message, mais je fais une confession, j'écoute la voix avec ma femme. Puis, amen sur la voie, intéressant. C'est bon, merci. Mais c'est incroyable à quel point, je veux dire, t'écoutes ces jeunes-là là, qui se font comme acclamer, encenser, tout ça, puis là, j'ai pas dit insensé, là, ils sont comme, wow, c'est extraordinaire, encensé, puis là, tu te dis, oh, mais c'est parce que, premièrement, cette voix-là, tu l'as achetée où? Tu l'as méritée comment? C'est Dieu qui te l'a donné, tu sais? T'as aucun mérite, au moins, pour ce don-là initial qui t'a été donné. Il vient de Dieu. Mais en même temps, à quel point, c'est comme, c'est tout ça là, qui va définir leur valeur, vous comprenez? Ça tient un peu de choses, ça, là. C'est le fun quand t'es beau, t'es jeune, puis t'es en forme, là, mais ça tient un peu de choses si c'est là qu'est ta valeur. Schaeffer dit quelque chose, puis je reviens sur l'idée suivante, là, parce que pour moi, c'est un élément qui est super important avec ce cours-là, c'est que le christianisme donne des réponses super intelligentes, super solide, à des questions très pertinentes qui nous sont posées. Il faut apprendre simplement à creuser. Fait que Schaeffer, et je termine avec cette citation-là, Schaeffer dit, on me dit parfois, pouvez-vous vraiment prêcher l'Évangile tel que vous l'avez exposé sous la forme intellectuelle de votre présentation? Les hommes du 20e siècle vous écoutent-ils? En voulant dire, est-ce qu'ils vous méprisent? Lui, tout son ministère s'est fait dans des milieux intellectuels. Tout le temps, il donnait des discours dans les universités, tout ça. Il était constamment dans ces milieux-là. Ne disent-ils pas, c'est répugnant? La réponse de Schaeffer, je n'ai encore jamais rencontré personne qui, après avoir saisi la valeur extraordinaire des réponses que le christianisme biblique apporte, c'est-à-dire juste avoir une conversation suivie, posée pour voir ce système-là, cette vision du monde-là, ait trouvé celui-ci en soi répugnant. Ce qu'on trouve laid, et malheureusement, on le voit un peu partout, c'est l'inconséquence des chrétiens qui professent la doctrine de la perdition sans pour autant manifester la moindre compassion pour les perdus. Voilà ce qui écœure chez les chrétiens évangéliques et qui incite les hommes de notre génération à se détourner de l'Évangile. Donc, c'est ça. Tout est dit. On va terminer avec un mot de prière, puis on se retrouve la semaine prochaine. Éternel notre Dieu, Seigneur, c'est beau, là, entre chrétiens, d'être dans la chambre des joueurs, puis dire go, 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 on y va. Mais on a besoin de ta grâce, on a besoin de ta force, de ton courage, Seigneur. On a besoin de regarder à toi, on a besoin d'être fier, Seigneur, de l'Évangile. Fier de s'enorgueillir, si je peux dire, Seigneur, parce que tu es notre gloire, de toi. Non pas de nous, non pas de nos raisonnements, mais de toi, Jésus, parce que tu es notre gloire. Je te demande de nous conduire là, Seigneur, que cette semaine, chacun d'entre nous puisse avoir l'opportunité, saisir cette opportunité d'engager une conversation respectueuse, pleine d'amour, de tendresse, mais une conversation sur cette vision du monde-là qui nous conduit à l'Évangile. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.